Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Le 27 octobre prochain, marquera le 65e anniversaire de la mort du grand boxeur Marcel Cerdan. Franck Ferrand nous raconte aujourd'hui cet événement tragique. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Un livre vient de paraître, signé Adrien Bosque, qui est titré Constellation. On y revit cette catastrophe qui a marqué l'année 1949. Pour revenir sur la carrière de Marcel Cerdan, pour évoquer ce que ce boxeur avait de singulier, j'ai invité notre historien du sport, Jean Dury.
Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Jérôme, posée via la page Facebook de l'émission. Jérôme voudrait connaître l'origine de l'enclave du département du Nord dans celui du Pas-de-Calais.
Ben voilà une question ultra précise et qui appelle une réponse qui ne le sera pas moins, je le souhaite en tout cas. Pour le moment, je vous propose de retrouver Marcel Cerdan qui s'apprête à gagner New York où l'attend Edith Piaf. Évidemment.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
En 1949, Marcel Cerdan est au sommet de la gloire. À 33 ans, celui qui, depuis 6 ans, enchaîne les victoires sur les rings, celui qui, bien que marié depuis 5 ans, file le parfait amour depuis 3 avec Edith Piaf, ce boxeur hors du commun a été sacré champion du monde 1948 en poids welter. Alors, certes, le 16 juin 49, il vient de perdre ce titre au profit de Jack LaMotta, mais Marcel entend bien prendre sa revanche. La date du grand affrontement a été fixée au 2 décembre et tout doit avoir lieu à New York. Et afin d'avoir tout le temps de s'acclimater, de s'entraîner pour cette échéance, il a réservé son voyage, son vol pour le 27 octobre. Et il y a une autre raison à ce départ un peu précoce et cette raison, vous la connaissez. Marcel Cerdan est attendu à New York. Il doit y rejoindre Edith Piaf. Du reste, son manager, Joe Langman, estime qu'il parte trop tôt. C'est un peu un bad boy, Joe Langman. Voyez à quoi il ressemble. Éternelle lunette noire, cheveux graissés au pento, fondateur du club des 5, le cabaret-restaurant où Edith et Marcel se sont rencontrés. Joe a tout du personnage louche, nous dit Adrien Bosque. Le boxeur aime son bagou, son sens de la fête et des affaires. Il est le parfait compagnon des allers-retours entre Paris, New York et Casablanca. Il a annulé la traversée en bateau pour un départ en avion, Paris-New York, donc ce 27 octobre au soir. Il faut imaginer la tête un peu renfrognée de Joe Langman dans le hall du petit aéroport d'Orly à l'époque. Rien à voir avec ce que nous connaissons maintenant, évidemment. Il boude, si je puis dire. « Si tu m'avais écouté, nous aurions attendu quelques jours, dit-il. Ma parole, nous partons presque comme des voleurs. » Mardi, nous apprenions la signature du match pour le 2 décembre. Hier, nous étions en province. C'est à peine aujourd'hui si nous avons pu boucler une valise. Je t'avais proposé de rester toute la semaine, d'assister lundi à la réunion du Palais des Sports. C'était simple, trop simple. Et demain, tu t'empêteras, car naturellement, dans notre précipitation, tu auras oublié la moitié de tes affaires. Ils ont l'habitude de se chamailler, hein, c'est comme ça que ça se passe entre eux généralement. Cerdan est également accompagné de son ami Paul Janser, on va en parler tout à l'heure. Aux journalistes présents dans le hall de l'aéroport d'Orly, Cerdan assure « Puisque je vous dis que je le ramènerai ce titre, je vais me battre comme un lion ». Les journalistes sont venus pour lui, évidemment, mais pourtant, Marcel Cerdan n'est pas la seule star à prendre ce vol. Il y a également inscrite sur la liste des passagers une violoniste, une grande violoniste, peut-être la plus grande violoniste de cette époque, Ginette Neveu, qui est une virtuose éblouissante. Elle est accompagnée de son frère Jean. Dans la salle d'embarquement, d'ailleurs, les deux vedettes, comme on dit à l'époque, vont poser ensemble pour le photographe de France Soir. Marcel Cerdan en profite pour inviter Ginette Neveu et son frère à son match et une politesse en valant une autre, Ginette Neveu l'invite de son côté pour un concert au Carnegie Hall, concert qui doit avoir lieu le 30 novembre. Les deux vedettes embarquent donc, avec 35 autres passagers, dans le Constellation FBAZN d'Air France en direction des États-Unis. Le Constellation est décrit à l'époque sur les affiches publicitaires comme, je cite, « la nouvelle comète Air France ». Il s'agit d'un avion de ligne quadrimoteur, pressurisé, capable de franchir une distance de 5600 km d'un seul tenant avec quatre énormes moteurs, des White Cyclones. Le Constellation a été créé pendant la Seconde Guerre mondiale par Howard Hughes, figurez-vous, le célèbre actionnaire de la compagnie Transworld Airlines, et il a fait son premier vol commercial, cet avion, en 1944. Et au moment de ce premier vol, il a déjà battu un record de Burbank en Californie à Washington. Il a mis 6h57. Alors, il y a eu un accident après ça, d'où la nécessité d'un nouveau certificat de navigabilité. Et le Constellation, par la suite, est devenu en quelque sorte le nouveau long courrier absolument incontournable. Air France en a commandé 13 aux constructeurs, ce qui lui permet évidemment de se positionner comme une des grandes compagnies, commerciales de l'époque. Comprenez bien qu'on est au tout début de cette aviation commerciale. Les gens, à l'époque, en 1949, voyagent encore très majoritairement par le bateau, par le paquebot. Seuls les plus aventureux, ou ceux qui, évidemment, ont les moyens aussi, il faut bien le dire, voyagent en avion. Alors, depuis 1947, il y a de véritables... Comment est-ce qu'on pourrait dire ? Il y a des prestations de luxe dans ce Constellation. Il y a des couchettes... pour les vols les plus longs, si vous voulez, il y a un côté de la rangée avec des sièges qu'on incline et puis l'autre côté avec des couchettes à rideaux qu'on tire. Et depuis à peine un mois, depuis le 30 septembre 49 exactement, Air France propose des repas chauds à bord de ses avions. À l'époque, tout ça est tout à fait nouveau, bien entendu. C'est un luxe de s'offrir un voyage comme celui-ci, bien entendu. Le Constellation est considéré comme l'avion des stars, du reste, c'est ce qu'on dit et c'est le slogan, pas officiel, mais le slogan qu'Air France a retenu. Alors il y a 11 membres d'équipage, le commandant, qui est le pilote, Jean de Lanoux, dont le héros est Charles Ningesser. Il est quand même, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est chevronné, hein, le pilote. Il a 60 000 heures de vol. Il a déjà réalisé 88 traversées transatlantiques. Vous voyez, c'est pas du tout un perdreau de l'année. Il a deux copilotes qui lui restent son nez. Figurez-vous, le même jour, à la même heure. Chez Air France, on les surnomme les jumeaux astrologiques. Il y a deux radios, un chargé de navigation, deux mécaniciens, et puis une hôtesse de l'air qui s'appelle Suzanne, qui est habillée d'une jupe plissée avec tailleur bleu marine et béret siglé de l'écusson d'Air France, et deux stewards, Albert et Raymond. Le plan de vol vient d'être modifié là juste avant le départ à cause d'un avis de tempête sur la Manche et l'Atlantique Nord. Donc on a décidé qu'on allait faire escale à Shannon en Irlande, et puis un ravitaillement à Santa Maria dans l'archipel des Açores. Bon, tout ça a l'air de rouler tout seul. Tout est prêt. À 20h, c'est la mise en route des moteurs. Alors, on entend ça crachote un peu avec la tour de contrôle, bien entendu. FBAZN, demandons autorisation décoller. Et la tour de contrôle répond, autorisation accordée, FBAZN. Il est exactement 20h06, le Constellation prend son envol vers les États-Unis, vers New York et vers celle qui attend là-bas, vers Edith Piaf, bien sûr.
Sur Europe 1 avec un extrait de Mon Dieu. Dans un instant sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la mort de Marcel Cerdan.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Revenons avec vous, Franck Ferrand, à Marcel Cerdan, qui se trouve dans un avion direction New York.
Eh oui, alors on ne sait pas exactement comment ça s'est passé, mais on peut très bien imaginer Marcel Cerdan signant quelques autographes, parlant avec ses amis, bien entendu. Joe Langman est très professionnel, vous savez, donc lui discute avec les journalistes, notamment avec le rédacteur en chef des dernières nouvelles d'Alsace, qui est à bord, et qui a prévu de télégraphier son papier avec le résultat de ses interviews dès qu'il arriverait à New York. La rédaction attend le télégramme, bien entendu. Rapidement, on distribue les plateaux repas. Au menu, bœuf en gelée, navarin d'agneau et macaron, le tout arrosé de champagne. Encore une fois, on a affaire à des passagers. À l'époque, c'est pas business class, là, puisque tout l'avion est business class, évidemment. Et d'ailleurs, à 23h, on propose aux passagers de traverser l'allée, en quelque sorte, et de regagner leur couchette. Dans le cockpit, une heure après le décollage, donc à 21h, le Constellation confirme à Orly sa position 13 900 pieds au-dessus de l'Atlantique. Les deux copilotes dirigent l'appareil, vitesse de croisière 400 km/h. Ils doivent atteindre l'aéroport de Santa Maria à 2h du matin, donc dans les Açores. Alors, les conditions météorologiques sont moyennes. Voilà ce que dit Roger-Pierre Agent de Lanoue. On a la communication. Commandant, Paris vient de confirmer le plan de vol transmis à Santa Maria. On annonce une dépression sur l'archipel à l'heure d'arrivée et une visibilité limitée au sol. Au moment où on arrive dans la zone de turbulence, aux alentours de 23h, c'est justement le pilote qui prend les commandes de l'appareil et qui décide de gagner un peu d'altitude. À 1h, on est à 300 km du point d'arrivée prévu pour le ravitaillement. Le premier contact est établi avec la tour de contrôle de Santa Maria dans les Açores. Les autorités aéroportuaires décèlent un problème lié à l'émetteur. La note est impure. Santa Maria annonce des conditions atmosphériques optimales, donc c'est pas ce qui avait été dit, et une bonne visibilité au sol. Il y a quand même pas mal de perturbations, mais enfin, le vol est globalement paisible. À 2h du matin, selon le plan de vol, l'arrivée doit donc se faire dans 3/4 d'heure à Santa Maria, la tour de contrôle est informée de l'heure d'arrivée précise. Les passagers sont réveillés par le personnel de bord afin qu'ils regagnent leur siège assis et qu'ils s'attachent puisqu'on va, on ne va plus trop tarder à atterrir. Le commandant de bord reprend de nouveau les commandes. Jean de Lanoue stabilise l'appareil à 2700 mètres au-dessus de la mer. Et ce n'est que la troisième fois que le pilote va se poser aux Açores. Il faut le préciser parce qu'il a fait de très nombreuses traversées, mais pas par cette voie aérienne. À 2h15, le Constellation signale un retard de 10 minutes. À 3h10, on confirme l'horaire définitif d'arrivée avec l'ultime autorisation, numéro de piste, hein, ce sera la piste numéro 1, des informations sur le vent, la vitesse, la direction, etc. L'avion est donc en approche, en pleine descente. Les passagers, le personnel navigant se prépare à l'atterrissage. I have the feel in sight, je vois le terrain d'aviation, dit Jean de Lanoue. Et contrairement à ce qu'avait annoncé la tour de contrôle, l'île, à ce moment-là, se trouve couverte d'un épais brouillard. On voit quand même les lumières hein, à travers la brume, ce doit être la piste d'atterrissage. 2h51 et 2 secondes, la tour de contrôle demande aux constellations de confirmer sa position. Et là, le message reste sans réponse. C'est un silence, aucune réponse de l'appareil. Alors, vous imaginez qu'à la tour de contrôle, on commence à s'inquiéter, évidemment. On se dit que l'appareil devrait maintenant avoir atterri. Or, ce qui est encore plus étonnant, c'est que non seulement il n'a pas atterri, ça se saurait, mais il n'y a rien à l'horizon. Le siège et le ciel est dégagé. À 2h53, on commence à s'inquiéter, bien sûr. Sur place, il est d'ailleurs 23h53, si vous faites évidemment avec le nouveau fuseau horaire. L'alerte est lancée. Les autorités aéroportuaires de Santa Maria lancent les premières recherches. Des bateaux donc se lancent à la recherche de l'avion. On est persuadé que l'appareil s'est écrasé en mer. Il fait encore une nuit noire, bien entendu, donc il faut utiliser des projecteurs, des lanternes pour essayer d'éclairer un océan par ailleurs assez agité. Ça va durer tout ça pendant plusieurs heures. Santa Maria n'est qu'une des 9 îles de cet archipel des Açores, cet archipel portugais. C'est une île volcanique perdue au milieu de l'océan avec une chaîne montagneuse. L'aéroport est à l'ouest de l'île, il n'y a que quelques pêcheurs, quelques habitants, c'est tout petit bien entendu. À 5h du matin, Le jour se lève sur l'ensemble de l'archipel des Açores, qui a toujours servi d'escale, hein, d'ailleurs, ces Açores. Vous savez, c'est un petit peu le rocher de l'Atlantique auquel on s'accroche, qu'on soit en avion ou en bateau, d'ailleurs. 8 avions vont décoller au petit matin pour faire le tour de l'île dans ses moindres recoins. Alors, il y a un des pilotes qui prend des libertés. L'avion de recherche de Paulo Gomes s'éloigne de la zone ciblée par les autorités, s'aventure plus au nord, plus au large, nous dit Adrien Bosque, direction les îles San Miguel et Terceira. Une intuition. À mi-distance de Santa Maria et de San Miguel, l'aviateur aperçoit, détaché du Mont Redondo, un nuage de fumée. Ce Mont Redondo, il culmine à 1200 mètres d'altitude tout de même. Hein. Il avait raison, cet aviateur, il a tout compris. C'est là que l'avion s'est écrasé. On voit d'ailleurs bien la carcasse, les ailes arrachées à quelques centaines de mètres en contrebas, les vestiges du quadrimoteur. Le réservoir consomme au centre les derniers litres de kérosène de l'appareil, nous dit le romancier. Autour de l'échassier démembré, des silhouettes qui semblent être des survivants, s'agitent. On verra ce qu'il en est de ces silhouettes, bien entendu. L'espoir reprend. On se dit, après tout, il y a quand même des gens qui sont là, qui s'agitent. Des bateaux sont immédiatement envoyés. Les autorités de Santa Maria préviennent l'Europe et on envoie un télégraphe à Lisbonne. Avion FBAZN retrouvé, pic Algarvia, situé nord-est, San Miguel, stop. Avion dit, il y a survivants, stop. Se rend sur place, stop. Ce message, on va le recevoir à Paris au tout début de l'après-midi.
Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag SCDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant, sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la suite de votre récit sur l'accident qui a coûté la vie à Marcel Cerdan.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Retour avec vous, Franck Ferrand, aux Açores, où s'est écrasé l'avion qui transportait Marcel Cerdan.
Alors, à l'aérodrome, parce que ce n'est pas encore un aéroport d'Orly, enfin, qui se trouve à l'emplacement de l'actuel aéroport d'Orly. D'ailleurs, je signale, je ne sais plus qui m'envoie un message pour me dire que c'était l'aéroport du Bourget. Non, c'était bien l'aéroport d'Orly, hein, je précise. Enfin, l'aéroport, l'aérodrome, devrait-on dire. On est en 1949, évidemment, il faut tout remettre dans l'échelle de l'époque. Il y a un client qui est furieux parce qu'il a été retardé à Rome, il arrivait de Palestine, et figurez-vous qu'il a raté la correspondance pour New York sur le Constellation FBAZN. Donc il est en train de faire un vrai scandale jusqu'à ce qu'une hôtesse arrive et lui apprenne que l'avion vient d'être déclaré disparu. Ah là, je vous assure que d'un seul coup, sa colère est vite retombée. Prenons la 4e édition de France Soir de ce vendredi 28 octobre 1949, édition qui revient sur le déroulé des événements. 9h26, un communiqué d'Air France annonce qu'on éprouve une grande inquiétude sur le sort de l'avion à bord duquel ont pris place Marcel Cerdan et 36 autres passagers, écrit le journaliste. Des recherches ont été aussitôt entreprises par avion et par bateau. Elles n'avaient encore donné à 9h aucun résultat. 9h50, premier détail, le Constellation a envoyé son dernier message à 3h55. Il s'apprêtait à atterrir aux Açores. Depuis, silence. 10h15, un représentant d'Air France déclare que l'absence de contact avec l'appareil peut provenir de simples difficultés techniques. Ah oui, dans un premier temps, on a essayé de rassurer autant qu'on a pu les gens, bien entendu. À 10h50, on annonce à Orly que l'avion s'est perdu en mer au large des Açores. On a, précisons à 11h30, aucune trace de l'avion. À 13h13, coup de foudre, les débris du Paris-New York ont été repérés par l'un des avions qui le recherchait sur le sommet du mont Algarvia, dans l'île de San Miguel, à 75 km de Santa Maria. Et alors, évidemment, on va se raccrocher au dernier espoir qu'on peut encore avoir, c'est qu'il y a donc des gens. On a aperçu des silhouettes qui bougeaient à côté de la carcasse de l'avion. Alors, il y a sans doute des survivants, se dit-on. Sur place, les premiers bateaux arrivent donc à San Miguel. Les équipes de secours se précipitent vers le village, vers Algarvia. On est au pied du mont Redondo. Il va falloir grimper pour se rendre sur le lieu de l'accident. Il faut monter de 800 mètres hein, par des chemins pentus qui sont mal entretenus. En plus, il a plu, il y a de la boue, tout ça est très compliqué. Il y a encore de la fumée qui s'élève de l'épave de l'avion qui s'est écrasé donc à 1000 mètres d'altitude. Visiblement, le Constellation a tout simplement frappé la crête de plein fouet. Et ce qu'on a vu, les espèces de silhouettes que depuis le ciel on apercevait se mouvant autour de la carlingue accidentée. En vérité, c'était des paysans qui, réveillés par l'explosion, étaient venus voler tout ce qu'ils pouvaient. Vous savez comment ça se passe dans ce genre de circonstances. Ce sont eux qu'on a vus. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de survivants. Les corps sont défigurés, noircis. La plupart ont été éjectés de l'appareil. L'identification des victimes va être extrêmement compliquée. C'est le moins qu'on puisse dire. Dans la 6e édition de France Soir, on peut lire 18h07, selon un télégramme de Santa Maria, il n'y a pas de survivants. On a monté immédiatement une cellule de crise à Air France, évidemment, avec le lancement d'une mission de sauvetage dirigée par Air France même, la propre mission de sauvetage de la compagnie, sous la direction de l'inspecteur de l'aviation civile de l'époque, Charles-Henri de Lévy-Mirepoix. L'avion tente de se poser sur l'île de l'accident le 28 octobre, en vain, parce que il n'y a pas de piste adaptée. Le choix, c'est d'atterrir à Santa Maria, et donc cette équipe ne rejoindra la zone de l'accident que le lendemain, le 29 octobre. Il va falloir grimper justement sur les pentes de ce mont Redondo. Quelques corps vont peu à peu être identifiés, et notamment, on découvre sur un cadavre, à son poignet, on découvre une montre. Sous la montre, il y a un M et un C, comme les initiales de Marcel Cerdan, évidemment. Les aiguilles indiquent 8h50, l'heure de l'impact. Quand je dis 8h50, rappelez-vous, c'est pas l'heure que je vous ai dite tout à l'heure, parce que ça, c'est l'heure américaine. « Il avançait sur son destin », écrit Adrien Bosque. « Le boxeur ne portait pas une mais deux montres, l'une à l'heure de Paris et l'autre réglée d'avance sur le fuseau de New York. C'était un cadeau d'Edith Piaf, un porte-bonheur. » On peut dire que Marcel s'était déjà calé sur l'heure d'Edith.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de Marcel Cerdan, avec votre invité Jean Dury, écrivain, historien du sport, fondateur du Musée National du Sport.
Bonjour Jean Dury, merci beaucoup d'être avec nous. Nous allons dans un instant revenir sur la carrière de Marcel Cerdan. Un mot de cet ouvrage, j'hésite à appeler d'ailleurs le livre Constellation d'Adrien Bosque un roman, puisque c'est un récit extrêmement pointu et précis en fait.
Oui, j'appellerais ça un roman-quête, un roman
voilà, c'est ça.
Enquête.
Exactement, oui.
Et c'est une enquête d'une minutie absolument extraordinaire, puisque son propos est de dessiner le destin des 37 passagers et des 11 personnes de l'équipage, pris un par un, sans oublier Ginette Neveu, bien entendu.
Hein. On a les noms même des passagers totalement anonymes.
Ça va même beaucoup plus loin que ça. Alors, en un mot, qui est Adrien Bosque? Il est né en Avignon, il a 28 ans. Il est monté à Paris, comme on dit. Il s'est installé dans le 11e arrondissement. Et c'est quelqu'un qui a une double passion, entre autres, la littérature et le sport. Alors, il a lancé en particulier...
Ça ne nous laisse pas indifférent, ça, forcément.
Non, évidemment. Et c'est une des raisons, peut-être, pour laquelle nous sommes ensemble, vous et moi, en cet instant. Et en particulier, il a lancé deux revues, mais ce sont des revues très particulières. L'une s'appelle « Feuilleton » et publie en particulier des textes d'auteurs étrangers. Et l'autre s'appelle « Des sports ». Comme avec le slogan suivant, le seul magazine qu'on lit avec un marque-page, parce que il en est paru, je crois, 4 numéros déjà, et ce sont des livres qui ont environ 250
très, très pointu,
pages.
Oui.
Donc, dernière chose sur Adrien Bosque, il y a évidemment un amour de la littérature et de la langue qu'on sent en particulier lorsqu'il décrit un moment, quand on retrouve un morceau du violon de Ginette Neveu,
oui.
Il décrit l'atelier du luthier et il emploie avec une finesse de langage et une précision les vocabulaires de la literie d'une façon qui montre un amour des mots et de la langue.
Il y a dans cet accident, évidemment, toute l'émotion et tout le drame qu'on peut imaginer. En 1949, ça a été un bouleversement considérable. Évidemment, la musique classique a perdu une très grande interprète en la personne de Ginette Neveu, mais celui qui a fait les gros titres, c'est tout naturel, c'était l'idole de l'époque, c'était Marcel Cerdan. Accident, tout de même, fait remarquer sur Twitter Dominique, a rapproché de celui du FBA2Z dans lequel est mort le violoniste Jacques Thibault. C'est vrai que c'est une coïncidence. À l'époque, l'aviation commerciale n'était pas encore très, très sûr, hein, évidemment.
L'émotion a été extrêmement forte, parce qu'il y a d'abord eu le mystère de la disparition de cet avion. Et d'autre part, c'était depuis 1946, le 1973e vol d'Air France, Paris, New York, New York, Paris. Et il n'y avait jamais eu d'accident de cette nature. Donc, les personnes qui étaient dans l'avion, et en particulier Cerdan, la France a été bouleversée.
Oui, les gens étaient totalement bouleversés. Et c'est vrai que Marcel Cerdan était une idole pour beaucoup. Alors, ce qui est très... Outre le fait qu'évidemment, sa liaison avec Édith Piaf en faisait une star, ce qu'on appellerait aujourd'hui un people. On y viendra peut-être tout à l'heure. Il y a eu ce film célèbre de...
Oui, mais attention, c'est que cette idylle avec Édith Piaf... Elle était plus ou moins masquée par les médias. C'était pas du tout le traitement
officiel,
people
bien sûr,
d'aujourd'hui.
Oh là là, non, bien sûr, on était beaucoup plus discret. Alors, j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait une erreur, et face à un grand expert comme vous, ça ne pouvait pas passer. J'ai parlé d'un champion du monde en poids welter. Vous dites non, en poids moyen, en fait. Hein.
Oui, alors, le fameux match, c'est le match contre Tony Zane, qui a lieu dans la nuit du 21 au 22 septembre 1948. Et Cerdan va devenir champion du monde des poids moyens. Dans l'histoire de la boxe en France, il y a eu deux combats du siècle qui, tous les deux, bizarrement, se sont déroulés à Jersey City.
Exactement.
Donc pas New York même. C'est le Carpentier d'Homsay du 2 juillet 1921. Et là, Carpentier est battu par KO au quatrième round. Et c'est ce combat-là. Alors, ce combat-là, il opposait deux hommes qui étaient déjà des boxeurs d'un certain âge. Cerdan avait 32 ans, il était né le 22 juillet 1916 à Sidi Belbès, et son adversaire en avait 3 ans et demi de plus. C'était un grand boxeur, Tony Zale, qui était d'origine polonaise, Anthony Florian Zaleski, appelé l'homme d'acier parce qu'il avait travaillé à la Steel Company et qu'il était lui-même un boxeur redoutable. Il était devenu champion du monde des poids moyens en 1940-41, lui aussi, comme Cerdan, la guerre avait entravé certaines de ses plus belles années, puisque pendant 4 ans, il avait été dans l'US Army. Il avait repris son titre en 1946, et depuis lors, jusqu'au combat avec Cerdan, il avait enchaîné 17 victoires, soit autant, ou plutôt 17 combats, autant de KO, mais l'un d'entre eux, il l'avait éprouvé, des points de Rocky Graziano. Rocky Graziano, c'est le boxeur marqué par la haine. Et il y avait eu un aller-retour, Tony Zale était champion du monde. Alors ce combat, vous ne pouvez pas imaginer aujourd'hui l'émotion en France que cela a suscité. Bien sûr, il n'y avait pas la télévision, il y avait la radio ou plutôt la TSF,
Télégraphe
sans fil. Et par exemple... J'ai vécu, moi, tout petit garçon, ce combat. J'étais en Franche-Comté, dans la maison de famille, et je suis descendu. Le combat a commencé à l'heure française à 3h13 du matin. J'entends encore le grincement de l'escalier quand je suis descendu dans la salle à manger.
Vous n'aviez pas le droit de l'entendre, si.
Et non. Et donc, je me suis glissé dans la salle à manger et j'ai écouté le combat. Alors, le combat, il était radio-reporté, comme on dit, par Pierre Crenès. Pierre Crenès, c'était le délégué de Radio-Télévision française aux informations générales. C'était pas du tout à New York. Et c'était pas du tout un technicien de la boxe. Donc, durant tout le combat, on a entendu d'une voix ferme, assez rapide, mais tout de même qui ne connaissait pas les termes de la boxe, on a entendu pendant toutes ces reprises, crochet du droit, crochet du gauche, break, dit l'arbitre. Break, ça veut dire séparation. Bon. Et en réalité, ce combat a été absolument passionnant. Il a été passionnant parce
que... Il a raté son commentaire, disons les choses.
disons que son commentaire était sommaire par rapport à des techniciens de la boxe. Mais enfin, on ne lui jette pas la pierre parce qu'on était très heureux d'entendre ça. Le combat a lieu, quatrième reprise, Cerdan est touché, mais il tient. À partir de la septième reprise, il domine. Dixième reprise, c'est très dur pour Tony Zale. Onzième reprise, il est ballotté d'un bout à l'autre du ring et il s'écroule à 2 secondes du gong. Il est ramené par ses soigneurs dans son coin. Une longue minute se passe, celle qui sépare 2 rounds, et il fait signe de la tête qu'il n'en veut plus. Paul Cavalier annonce à Cerdan qu'il est champion du monde. Alors, comme un fou, je suis sorti de la maison et je suis allé sur la route pour partager avec le village, le petit village de Tavé en Franche-Comté.
À 4h du matin, à 5h du matin.
À peu près 4h du matin. À ce moment-là, les routes permettaient, avec le trafic, de rester sur la route. Mais j'étais tout seul, mais profondément heureux. Alors, des millions de personnes avaient écouté ce match et l'émotion de cette victoire a été extraordinaire. Parce que Cerdan est resté quelques jours à New York pour différentes raisons. Il est revenu à Paris, à Orly, bien entendu, le 1er octobre, par un Constellation. Et à Orly, des centaines de personnes l'attendaient. Il est parti vers Paris dans une Delahaye découverte.
Extraordinaire.
Et il a fait dans Paris un parcours par le Luxembourg, Concorde, Madeleine, la République.
Un parcours triomphal.
Pour arriver à l'Hôtel de Ville. Mais c'est beaucoup plus que le 12 juillet 1998, car ça s'est cantonné sur les Champs-Élysées, oui. Où il y avait tout de même un million de personnes. Mais là, tout Paris était là pour lui serrer la main, l'acclamer. C'était une émotion extraordinaire. Et on peut dire que depuis le 25 août 44 et le 8 mai 1945, la fin de la guerre, ça a été l'événement de Paris, parce que la France redevenait une grande nation à travers cette ville.
C'était un symbole, en fait. Il ne faut pas oublier qu'on est au lendemain de cette Seconde Guerre mondiale. Il y a, en quelque sorte, une forme de fierté collective retrouvée à travers Marcel Cerdan. Donc, il est devenu l'enfant du pays, d'une certaine manière. Je dis l'enfant du pays, on l'appelait quand même le bombardier marocain. Il faut que vous nous expliquiez ça.
C'est très simple, c'est que le Maroc faisait partie de la France, comme l'Algérie et la Tunisie.
À l'époque, bien sûr.
Ça n'est qu'en 1956 qu'ont eu lieu les indépendances. Et donc, j'ai parlé
du Bel Abbès
tout à l'heure.
Du Maroc et de la Tunisie, oui.
À l'âge de 5 ans, son père, Antoine, qui n'était pas quelqu'un de commode, avait gagné Casablanca avec sa femme Assomption. Il y a eu trois frères, Cerdan et une sœur. Et puis, ils étaient dans le pauvre quartier de Cuba, à Casablanca. Et Cerdan a commencé sa carrière de boxeur professionnel en 1933, à 16 ans et 11 mois. La Fédération française a toléré la chose. Et son ascension, on va le voir, a été extrêmement rapide.
Comme vous dites, on va le voir.
Franck Ferrand, 14h, 15h, sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de Marcel Cerdan, avec votre invité Jean Durie, écrivain, historien du sport, fondateur du Musée national du sport.
On va revenir à la carrière, à la genèse de Marcel Cerdan. J'allais presque dire à la genèse de ce champion qu'est Marcel Cerdan. Un mot peut-être d'Edith Piaf, qui donc pour qui ça a été un drame absolument extraordinaire. On peut dire une vraie cataracte dans son existence. Et c'est peut-être par Edith Piaf que Marcel Cerdan est revenu dans l'inconscient collectif il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, Jean Durie.
Oui, c'est logique ce que vous dites, et tout à l'heure sans doute on se demandera pourquoi aujourd'hui encore Cerdan reste une figure mythique, on peut le dire. Mais ce qui est frappant, c'est que à partir du moment où il a cette rencontre avec Edith Piaf, alors qu'il a sa femme Marinette, ses enfants Marcel, oui, René et Paul, son existence change. Parce que Édith Piaf le fait pénétrer dans un autre monde, lui fait découvrir des écrivains, le fait s'habiller, le fait participer à de nombreuses activités qu'aujourd'hui on appellerait les activités people. Et évidemment, c'est une sorte de schizophrénie. Il est partagé en deux. Et quelle aurait été son existence s'il n'y avait pas eu l'accident des Açores? On peut vraiment se le demander, quel choix aurait-il fait, comment aurait-il vieilli, mais on n'imagine pas un Cerdan ayant vieilli.
Oui, l'accident est arrivé juste à temps pour qu'on n'ait pas à se poser la question. Alors, vous nous parliez de cette formation, il est entré,
à 16 ans.
La fédération,
et 11
mois. Oui, la fédération.
La fédération a laissé faire ça.
Parce que normalement, c'était quel âge
Le Maroc, c'était tout de même loin. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que en 1937, le lendemain du jour où il est majeur, il a 21 ans, il signe un contrat avec Lucien Roop, qui va être le manager à lunettes, qui le mènera jusqu'au titre mondial. Et son ascension, elle est extrêmement rapide. Il est alors ce qu'on appelle un poids welter. Poids welter, ça veut dire environ 66-67 kilos. C'est à l'époque l'une des 8 catégories de la boxe. Aujourd'hui, dans le délitement du pugilisme, il y a 17 catégories, 4 fédérations mondiales, on n'y comprend absolument plus rien.
Ça permet de multiplier les prix, évidemment.
Oui, mais d'évaluer.
Et
il y avait deux catégories reines, les poids lourds et les poids moyens. Mais lui, il est encore un poids welter. Il monte à Paris avec Roop dès octobre 1937, à la salle Wagram plutôt. Mais il y a un combat qui va être capital, c'est le combat du 20 mai 1938 contre Gustave Humery au Palais des Sports. Pendant les 5 premiers rounds, Cerdan est massacré. On se demande comment il tient encore sur le ring. Et puis à la 6e reprise, c'est lui qui descend Humery par KO. Et il le retrouvera en 1942 pour un autre combat dramatique qui a lieu au Grand Palais, donc tout près d'ici. Le combat dure 22 secondes, KO d'Humery compris. Mais Humery est emmené à l'hôpital Bousquicot et pendant 36 heures entre la vie et la mort, et Cerdan est là devant sa chambre en pleurant. Et ce combat l'a beaucoup marqué. Heureusement, Gustave Humery s'en est sorti. Il est devenu ensuite porteur de bagages à la gare de Lyon. Donc, Cerdan, poids welter, il devient champion d'Europe dans l'Italie fasciste à Milan en 1939. Et à ce moment-là, on pense déjà à une possibilité d'aller aux États-Unis où il y a un très très grand champion tenant du titre qui s'appelle Henry Armstrong, le premier boxeur à avoir eu un titre de champion du monde dans trois catégories différentes. Mais c'est la guerre. Et oui. La guerre change tout. Pendant la guerre, se bâtit aussi l'image de Cerdan. Cerdan, tout le monde l'aimait. Il avait une sincérité, une simplicité,
direct, oui.
Une naïveté, un esprit d'enfance qui était évident et qui le rendait sympathique. Mais pendant la guerre, d'une part, il est officiellement dans la marine française et surtout, il a un accord avec la résistance et le prix des combats qu'il mène, les bourses vont aller en grande partie à la résistance. Voilà le Cerdan de la guerre. Et puis ensuite, c'est le sortir de la guerre. Il nous reste 3 années à vivre, 4 années. Il est champion de France des poids moyens. C'est donc la catégorie qui fait environ 71-72 kilos en 1945.
Par KO face à Hassan Diouf, c'est bien ça?
Oui, face à Hassan Diouf.
Moi je lis, vous ne lisez pas, moi je lis.
Mais vous savez tout. Et champion d'Europe en 1947. Et en 1946, commence l'Amérique. C'est-à-dire que les Américains, pour le tester, lui envoient un boxeur qui avait 237 combats, qui était un bon boxeur, qui s'appelait Holman Williams. Quelques jours après le match contre Charon, qui avait rempli le Parc des Princes sous la pluie battante, et c'est ce jour-là, dit-on, qu'il a été vraiment présenté à Edith Piaf. Oui. Et puis le 6 décembre, il y a un combat au Madison Square Garden de New York contre Georgie Abrams, qui est un très bon boxeur. C'est un combat terrifiant. L'arbitre lève le bras de Cerdan vainqueur, lequel n'avait plus la force de lever le bras lui-même. Et l'année d'après, il a un autre combat contre Anton Radić à Chicago. Et la dernière, la 10e reprise est terrible. Il tombe 3 fois à terre, mais il tient jusqu'au bout. Il est vainqueur au poids. Alors, ce qui est intéressant, c'est que son match contre Tony Zell n'est pas du tout arrivé sur un plateau. Les Américains
qui va faire de lui le champion du monde.
Oui, les Américains étaient tenants du titre. Ils voulaient se le garder. À ce Français, on a mis toutes les barrières possibles et imaginables. Par exemple, dans le vestiaire du match contre Georgie Abraham, tout d'un coup, on a vu une fuite de gaz carbonique. Le jour du match contre Radić, il était malade. Mais petit à petit, cependant, on arrive à l'année 1948. Et alors les choses vont succéder très vite. Le 10 juin, je l'évoquais tout à l'heure, Tony Zell reprend son titre mondial des moyens à Graziano. Cerdan, lui, a été à Bruxelles, où il a eu une des rares défaites de sa carrière. Il n'en a eu que 4. 2 pour des coups bas extrêmement douteux. La 3e, on va y arriver. La 4e, contre la Motta. Et alors, contre le Belge Cyril Delannoy, l'arbitre anglais Little donne Delannoy vainqueur. Cerdan s'effondre. Il n'était pas très bien préparé, c'est évident. Mais tout de même, il avait gagné. Et il reprend ce titre le 4 juillet. Et alors, le contrat pour le match mondial est signé. Et c'est amusant parce qu'aujourd'hui, les choses vont très très vite avec tous les moyens, les téléx, les fax, etc. Mais là, ça a été extrêmement rapide. Le 4 juillet, il gagne. 8 jours après, le match est signé. Et c'est le match que nous avons décrit du 21, dans la nuit du 21 au 22 septembre.
Et cet adversaire, La Motta, surgissait d'où?
Ah, alors La Motta. La Motta, c'est un naughty boy, le mauvais garçon. Vous le connaissez, puisque c'est l'homme de Raging Bull.
Bien sûr.
Il avait partie liée évidente avec la mafia. Il était le 10e poids moyen mondial seulement. Et voilà qu'on monte ce combat à Detroit, dans son fief, sous la tutelle de Frankie Carbo, sans aucun doute. Il rencontre Cerdan. Cerdan est grand favori. Et puis, à la première reprise, le match ayant été déplacé d'un jour, Cerdan n'ayant pas eu le temps de s'échauffer, etc., il glisse, il s'appuie sur son bras gauche, ses ligaments sont déchirés, il fait tout son combat d'un bras, et évidemment, il est obligé de se retirer à la 10e reprise, d'où la revanche
qu'on
obtenue,
attendait et que...
qu'on attendait, qui a été déplacée, car elle est venue une première fois à New York, et 4 jours avant le match, la Motta l'a fait annuler sous un prétexte fallacieux. Puis c'est la signature pour le 2 décembre qui ne sera pas le match d'Austerlitz qu'on aurait pu imaginer.
Qui ne sera jamais honoré par définition. Si je vous donne 15 secondes, Jean Duré, vous pouvez essayer de me définir ce qui a fait le style de Marcel Cerdan ?
C'est un style avec une garde ramassée, très très bien décrit par un ami qui s'appelait Maurice Rouff. Et donc il y avait une garde implacable et d'autre part une rapidité d'intervention, un équilibre et une précision tout à fait extraordinaire. Et puis ce courage qui faisait que jamais il n'acceptait l'idée même d'une défaite. Mais s'il est resté un mythe, c'est parce qu'en lui-même l'éternité l'a changé, comme Faustocopie par exemple.
Évidemment. Merci beaucoup Jean Dury pour cette incroyable épopée d'un boxeur en moins d'une demi-heure tout de même. Je rappelle le titre de cet ouvrage d'Adrien Bosque, ça s'appelle Constellation et c'est chez Stock.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Jérôme. Il nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Il voudrait connaître l'origine de l'enclave du Nord située dans le département du Pas-de-Calais.
Alors Jérôme a raison, ce n'est pas le seul cas en France, mais effectivement, les communes de Bourcy, Douagny et Meuvres sont rattachées à la préfecture du Nord, tout en étant situées dans le Pas-de-Calais. Pourquoi ? Eh bien, sous l'Ancien Régime, ces trois communes étaient situées en Artois, et elles faisaient bien partie de l'évêché de Cambrai, donc dans l'actuel département du Nord. Et lors des discussions que, vous savez, qui ont présidé idées à la création des départements. En 1789, eh bien, l'Assemblée constituante avait décidé de procéder au découpage en essayant d'équilibrer les surfaces. Vous savez, il semblerait donc que les architectes du découpage de la France aient eu la volonté de maintenir les anciennes frontières de la province du Cambrésis. Ce qui est intéressant, c'est tout petit, hein, ça fait moins de 1000 habitants, cette enclave. Ce qu'il faut dire, c'est que fin novembre 2013, les trois communes en question ont changé de code postal. Elles sont passées du 62, donc Pas-de-Calais, au 59 Nord. Donc, officiellement, on peut dire qu'elles ont renoué avec leurs origines.